sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Je vais commencer cette émission par une annonce avant de recevoir notre invité. Il s'agit de la revue Nouveau Délit, revue de poésie vive. Le numéro 70 vient de paraître. Et c'est Cathy Garcia Canales qui dirige cette revue depuis maintenant... je pense une vingtaine d'années, et voici ce qu'elle dit dans son éditorial. Outre que j'en écris depuis maintenant 18 ans, il devient de plus en plus difficile pour moi d'écrire un édito. Comme la sensation de rajouter juste du bruit au bruit de la cacophonie actuelle, qui ferait honte à une cour de récré, est devenue juste insupportable. Pour anti, vérité, complot, contrôle, propagande, QR code, labo, dollars, économie, dépistage, pandémie, puçage, data, reset, hashtag, merde, bit, cul, de quoi cloper ta tourette, on devient fou, c'est effrayant. Voilà. Alors, une histoire antique, en somme, dit-elle, en parlant de ce qui nous arrive, toujours la même, celle du syndrome d'Hubris, thème central des tragédies grecques, considéré comme le plus grand des crimes. Y entendait-on mieux alors la parole des aèdes et des pythies, résonner comme autant de mises en garde? L'humain, même milliardaire et transhumanisé, n'échappera pas à la loi des cycles. La némésis, tôt ou tard, viendra frapper pour ramener tout imbécile trop imbu un peu plus d'humilité. En attendant, allons ramasser des murs et buvons à même la langue des poètes et des pythonisses, ces rescapés de toutes sortes de tragédies qui continuent à naître siècle après siècle, apportant avec eux les graines vives d'un monde autre. Ce numéro 70 correspond justement à l'année de ma naissance. Cette revue est une des toutes petites graines que je lance au vent de cette époque si agitée, merci à vous de lui permettre de germer encore et encore entre vos mains. Alors, je ne peux que vous encourager à vous abonner à cette revue de Cathy Garcia Canales. Hein, c'est une revue militante et de grande qualité de la poésie contemporaine. Vous trouverez sur ce sommaire Lydiane Bersinger, Chiara Pastorini, Christine Bouchu, Narki Nahal, et puis un délit d'autopromotion, c'est-à-dire que c'est la rédactrice donc de cet éditorial, la directrice de cette revue, Cathy Garcia Canales, qui fait paraître Histoire d'amour, Histoire d'aimer, donc qui a paru, je pense, non, a paru, oui, le 1er septembre. Voilà. Donc nous reparlerons de cette revue. Je vais vous lire juste un texte pour voilà, illustrer. C'est Christine Bouchu. Avantage, ce sont des extraits. Mauve, ses yeux, un âge faussé. Il bâtit un pont, errit, pas si sombre, dans les pas de la pluie. Bleu avant la nuit, je marche, le ciel flétrit. Me plairait sa peau pour une nuit, son sourire en dit tant, la fille cligne à peine, scie plutôt, je fonds, les résolutions à la braise de ses lèvres. Christine Bouchu dans la revue Nouveau Délit de Cathy Garcia Canales. Alors, le numéro vous coûtera, je pense que c'est toujours 6 euros si j'ai bonne mémoire, mais il faut vous abonner, 35 euros pour 4 numéros. Donc l'abonnement se fait à Nouveau Délit, Letou, L-E-T-O-U, 46 330 Saint-Cyr La Popie. Voilà, vous aurez les renseignements sur cette revue sur le site de cette émission qui est Les Poètes tout attaché un point site.fr. Les Poètes site.fr. Voilà. Nous allons maintenant recevoir notre invité. Il s'agit de Michel Écart-Elial. Michel Écart-Elial, qui est professeur de littérature comparée et docteur en sémiotique textuelle. Il est poète et il est traducteur de la littérature hébraïque. C'est à lui que l'on doit la première traduction, par exemple, française de Yehuda Mirai. Il a traduit Dalia Ravikovitch, Aaron Chabtaï, David Vogel, Roni Somek, Amir Or et d'autres. Et il dirige actuellement la revue Le Vent, les éditions Le Vent, revue cahier de l'espace méditerranéen, qu'il a fondée en 1988 à Tel Aviv et qu'il a ensuite transportée avec lui à Montpellier, une revue dont la vocation et les éditions qui suivent, hein, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Alors nous avons Michel en ligne. Michel, bonjour.
Oui, bonjour Christian, bonjour Radio Occitanie.
Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Michel, nous aurons oui. la grande joie de te voir jeudi 18 novembre pour un colloque qui est un colloque un peu historique de l'Académie des Jeux Floraux, puisque ce colloque qui a pour titre « Qui connaît les poètes aujourd'hui ?» va réunir un ensemble d'acteurs de la poésie contemporaine à l'hôtel d'Assesa, qui est le siège de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, et ceci à partir de 9h du matin et en définitive jusqu'à 19h l'après-midi, puisque ce colloque qui va s'étendre jusqu'à 17h va être suivi de la remise de lettres de maîtrise de maître Hégeu, donc de l'Académie, au poète Adonis, poète que tu connais bien, et également au poète J'aime Sacré, que tu connais bien aussi, puisque, comme toi, il habite Montpellier. Donc c'est une journée historique, je crois, quand même, pour l'Académie des Jeux Floraux, également pour Toulouse, puisque tous ces acteurs vont être réunis là. Et parmi ces acteurs, nous aurons, bien entendu, Monsieur Michel Écart Elial, qui viendra représenter en tant que poète, bien sûr, mais également comme directeur des éditions et de la revue Le Vent. Alors Michel, nous allons, dans l'heure qui vient là, nous allons parler essentiellement, si tu le veux bien, d'abord bien sûr nous allons commencer quand même par les éditions que tu diriges, parce que c'est quand même très important, et tu fais ce travail donc depuis 1988, d'une façon qui force l'admiration. Quand on voit la dernière publication des éditions Le Vent, un livre de Vanessa Deloyal-Stauber, Poésie organique, c'est une traduction par Revital Berger-Schloman, avec des peintures de Denis Zimmermann, hein, que l'on a déjà eu l'occasion de voir dans tes précédentes éditions là, de Le Vent. Il s'agit d'un très très beau livre, donc très très soigné. C'est un véritable livre d'artiste, un livre d'art, hein, que l'on a entre les mains quand on a ce livre. Alors tu vas nous parler de cette publication, d'abord de Vanessa Deloyal-Stauber, hein, qui est née à Marrakech et qui a quitté le Maroc pour vivre à Paris et qui vit, je crois, maintenant en Californie. Voilà. Est-ce que tu peux commencer donc la présentation peut-être dire quelques mots d'une façon plus générale sur les éditions Le Vent, hein, et oui, puis nous parler de poésie organique, donc de Vassal.
Oui, Le Vent est une figure de danseur. Je ne vais pas dire que c'est pérennisé, mais enfin dur, hein, avec toutes les difficultés de la petite édition, comme on l'appelle, hein. Et notre projet, c'est que notre projet est fort, qu'il est insistant et qu'il est doté d'avenir, je pense, car il s'agit de rassembler les voix vives de la Méditerranée, souvent distantes par toutes sortes de mésententes et de conflits, et de les faire cohabiter ensemble dans un projet poétique. C'est le vent, bon, le vent qui se lève, ce qui nous porte vers l'avant. Alors Vanessa, alors c'est l'avant-dernière publication exactement, Vanessa Deloyal-Stauber est une poète qui exprime exactement le parcours que nous avons suivi, que nous suivons. C'est une femme qui a traversé les langues, traversé les frontières, et qui, en français, et même, ça c'est la première fois que ça arrive dans les éditions Le Vent, en hébreu, en français hébreu, puisque le livre est une édition bilingue, elle fait émerger pour la première fois dans sa biographie, elle n'a pas publié de poésie encore, elle fait émerger une parole qu'elle croyait oubliée, celle du poète, associée à l'enfance, associée à l'imaginaire, à ce qui est tapis dans le cœur, la conscience, et qui est réveillée, qui s'est réveillée sur ce chemin de Jérusalem, puisqu'elle habite aujourd'hui, elle a quitté la Californie, elle habite à Jérusalem. Donc j'aime beaucoup l'expression que j'ai trouvée là dernièrement sur la couverture d'un livre, je crois que c'est le dernier livre d'Alain Suède, hein, trouvé au marché de la poésie, qui a le titre de « Langue oubliée ». C'est peut-être cette langue oubliée que porte le poète, hein, en son cœur, en son âme, et qui demande à être réveillée. Alors, c'est un peu mythique, hein, cette langue oubliée. De quelle nature est-elle? Quelle est-elle? Fête d'Olivet au 19e siècle, croyez que c'était l'Évreux, oui, mais enfin c'était un Paris un peu fantasmatique, si je puis dire. Il y a bien sûr toutes sortes de mystères sur la langue première. Bref, il y a dans la langue poétique, il y a une langue oubliée, une langue dont on se souvient à peine, mais qui est suffisamment forte et parfois jaillissante pour qu'on s'en saisisse et on la porte à l'autre d'abord, elle nous interpelle, on la porte à l'autre, et l'édition, on en parlera bien sûr ensemble jeudi, c'est le support en quelque sorte, c'est l'outil qui nous permet de rendre public, de prendre acte de cette langue poétique et de la porter vers les autres. J'aime assez bien rappeler le propos de Naïm Araïdi, que nous avons connu en d'autres temps, puisqu'il est parti, il n'est plus de ce monde, qui disait « Le poète est celui qui porte le poème aux hommes, aux autres hommes ». J'aime bien cette formule très simple, très terrienne, oui. Qui dit l'agir, le mouvement de la poésie.
C'est le faire. On parle... Oui. D'ailleurs, poésie veut dire faire.
Faire, alors voilà, faire, on en reparlera aussi, j'espère jeudi, dans notre colloque, hein. De quelle nature est ce faire, hein. De quelle nature est ce faire, quel est ce faire de la poésie, quel est ce faire de la poésie qui anime... qui fait surgir les poètes à la place publique quand ils éditent, hein, quand ils veulent lier langue, nouer par le cordon ombilical qui les relie au monde, la langue, hein, ceux-ci veulent les porter vers l'autre, hein, vers le monde. Dans ce domaine de la poésie, et c'est aussi le propos de Levant. Je veux dire que le propos de Levant, c'est bien sûr la Méditerranée. Tu y as fait référence. Hein. Réunir les trois rives de la Méditerranée. S'il s'agissait que de cela, ce serait un peu, ou à la fois très simple, si je puis dire. Il suffirait de regarder une carte. Hein. Il suffirait d'avoir le bon œil pour réunir ses rives. Mais nous savons que l'histoire, elle est faite de... bien dans ces trois rives, ce sont clés, des enclavés, et que, malgré tout, grâce... Bon, il y a d'autres domaines, il y a la diplomatie, bien sûr, mais surtout grâce à la communication des langues, et grâce à la traduction, et grâce... entre autres à la poésie, ces rives, les hommes de ces rives, les lecteurs de ces rives, les poètes de ces rives-là, dernier année, ne se sont jamais éloignés. Ils se rejoignent de temps en temps, et on le voit ici, près de chez nous, à Sète, hein, dans le festival des voix vives. On le voit à Toulouse, est également... Je suis très heureux que ce colloque, enfin cette manière de se rencontrer, se passe à Toulouse. Toulouse est porteuse, hein, est un jalon de ce bassin de communauté qui relie ces trois rives, hein, de la poésie, qui ne sont pas que de la géographie, qui ne sont pas que des terres, hein, qui ne sont pas que des matières. Hein. Sûrement pas des matières inertes, hein, des matières, disons, qui nous atterrent, qui nous mettent à terre, hein, mais des rives qui nous lèvent, hein, et nous haussent vers le ciel, vers le plus haut de la conscience. Salard Fétier disait, cette formule, les poètes sont porteurs de lumière. Les poètes sont porteurs de lumière, et nous savons que la lumière immerge le monde, la lumière en la elle nous vient, elle est quelque part, elle s'identifie au haut, à la hauteur. Elle nous fait voir, elle illumine, et c'est cela qui porte le vent. C'est cet espoir-là de porter la lumière vers de porter la lumière par le poème, grâce au poème, vers les autres hommes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons publié, depuis 30 ans, nous publions, et Vanessa et Deloya Strober, qui est psychanalyste, hein, de son métier, a trouvé juste, c'est-à-dire elle a trouvé à l'âge de la vie, un certain âge de sa maturation, elle a trouvé juste, hein, de vouloir publier ce livre qui s'appelle Poésie organique. Poésie organique fait référence à une phrase de Novalis, le poète romantique allemand, disant « Le monde doit être romantisé. Le monde doit être romantisé. » Alors, moi, je viens de la phrase comme si le monde, il doit être romantisé, il doit être doté de poésie, il doit être enrobé de poésie, il doit être, on doit l'exprimer, le monde, dans la poésie, parce qu'il est dur, ce monde. En fait, il est tel qu'il est. Et la poésie a aussi elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire avec cet objectif, cette vision de lui donner de la couleur, de la lumière, dans du sens. Et c'est ce qu'elle a fait dans son livre, dans son recueil de poèmes. Son recueil de poèmes, cette découverte s'est faite chez elle par la traversée des frontières. Chaque frontière correspondant à une étape de sa vie, la Californie, la France et aujourd'hui Jérusalem. Jérusalem qui, peut-être dans son esprit à elle, dans son équation historique, c'est-à-dire son rapport aussi avec son histoire, et comme on dit dans le symbolisme, dans certains langages symboliques, l'Orient du cœur, on parle de l'Orient du cœur, c'est l'Orient à l'Orient, bien sûr, dans la géographie de notre scolaire que nous avons étudié à l'école, des cartes, du globe, de la planisphère, mais c'est aussi l'Orient, là où se lève la lumière, chaque matin pour nous, là où se lève le soleil, et ce soleil pour elle, elle a trouvé dans sa juste couleur, dans sa juste lumière, dans sa juste également énergie, à Jérusalem. Jérusalem, avec bien sûr la langue hébraïque, c'est un retour vers la langue hébraïque, et je trouvais juste aussi de traduire ces poèmes en hébreu, c'est-à-dire que nous avons là une édition bilingue qui porte précisément au-delà du bilingue à la curiosité éditoriale, combien de gens lisent l'hébreu en France, oui, le sujet n'est pas là. Mais, comment dire, porter le spectre de la lumière, oui, la spectrographie de cette mise en lumière recherchée par Vanessa. Avec, bien sûr, dans l'hébreu, des mots de la cabale, ou des mots qui sont d'ailleurs universellement connus, comme celui du Pardès, le paradis. Voilà ce que je peux dire en liminaire, disons, sur ce livre. Dingue. Il a été présenté à Montpellier, bien sûr, et au marché de la poésie. Voilà, c'est son dernier dernier voyage, itinéraire. Il va se trouver à Toulouse.
D'accord. Alors, j'en profite pour dire que tu peux apporter ces exemplaires de la revue Le Vent jeudi au colloque, et les Toulousains
bien sûr
auront un stand de livres, ils pourront acheter donc ces livres. Alors ce livre quand même de Vanessa Deloya Staubert, donc il est en bilingue, et sur la page de gauche il y a toujours une illustration magnifique donc, de Denise Zimmermann. C'est donc un livre d'une grande qualité graphique, esthétique, artistique. Est-ce que, Michel, on peut te demander de nous lire simplement peut-être un poème de Vanessa Deloya Staubert,
oui,
dans les deux langues, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible?
Dans les deux langues. Alors ça, c'est plus... Ok.
Un seul, parce que je voudrais ensuite parler de ta production à toi.
Tout de suite. Un poème qui soit... emblématique de cette divinité, de cette poésie. Bon, tu as un texte, le premier texte peut-être du recueil, tout simplement.
La dédicace.
Voilà, la dédicace. La rencontre d'avec toi, comme une caresse qui se répand, veille à ce que ne s'étire le pas. Danseur sans musique, orni, flottant, embué par les fluves, enrôlé dans notre rêve, rare félicité. Te souviens-tu de notre goût pour l'écume et son velouté? Ta douleur, je t'en épargne. Le chaud et le vivant de notre fil effacera toute aspérité. Ensemble, nous déambulerons encore. Alors, en hébreu, j'essaie de lire. Alors, Ami Kiddushin, c'est le titre, Kiddushin, dédicace. Ami Kiddushitra, Litouf Mitkachet, Azohar Shla Yebol. Ragdanim Chasre Slil, Mechus Lakan Ahava, Sashim. Sfugim Beniruach, Rekum Bechalom Shelanu, Osher Nadir. Ata Zocher, Kama Rivavnu, Ta'a Mekhtifa, Meketsifa, Kevra Mitrachek, Achom Vachiyut, Shebanu, Imreku, Pinot, Hadot, Yahat, Nissa, Shuv. Voilà, donc.
Merci Michel. Alors, ce que l'on retient, c'est que, oui, après plus de 25 ans, 27 ans de psychanalyse, elle débouche quand même sur le poème. Hein.
Oui, bon, ceci sera dit. Le poème. Bon, je pensais surtout à, pour cet instant, je pense à René Chonik, qui pose poème et poésie, hein, qui oppose oui, beaucoup de choses. Hein, c'était un peu dans le tempérament de ce maître, hein, de faire surgir la tradition qu'il y a dans notre culture et notre champ notionnel également. Poète aussi, pour les uns et pour les autres, c'est quasiment poète. Mais pour lui, c'était le poème. Justement, c'est ce reste, hein. Ce reste souris, ce brin, ce fétu de paille, hein, cette brise qui échappe, hein, à l'énorme appareil de la poésie. La poésie est aussi une institution, c'est aussi une manière native de dire ce qu'est la poésie. Et notre histoire de la poésie est faite de rhétorique, enfin, d'école, hein. Et nos manuels scolaires, hein, en sont les rescapés de cette normativité qui, au fond, forge notre jugement et notre prise en main de la poésie. Le poème est donc ce qui échappe, quelque part, à la poésie. Le poème est de l'ordre du sujet. Le poème est de l'ordre de l'histoire. Et on le voit chez cette poète, Vanessa. Oui, la psychanalyse, on peut penser que la psychanalyse semble pouvoir tout dire et pouvoir tout réveiller et tout révéler. Et une psychanalyste à l'écoute de tout ces analysés, cette patientèle d'analyser, pourrait avoir la tête pleine, oui, d'une certaine forme de poésie, d'une complexité de la poésie. Qu'elle est dans le besoin d'y échapper, de dire, en face de cette conscience, cette institution toute pleine de paroles, cette parole, cette bouche pleine de mots et de mots dits et de mots non dits, elle a besoin d'exprimer, de se frayer un chemin vers une parole unique, une parole qui n'est que d'elle et qui, car elle traverse la parole des autres et sa propre communication avec le monde.
Ce que tu disais entre la poésie et le poème est tellement, nous en sommes tellement imprégnés en définitive de cette distinction qu'opérait excusez-moi.
Oui, je parlais de Michonique.
Michonique, que dans la rédaction du discours là, que je vais présenter pour la réception de J'aime sacré à l'Académie des Jeux Foulereaux, j'ai fait toujours attention d'indiquer le poème et non pas la poésie. Et tu viens de réveiller en définitive, j'ai compris que j'avais toujours eu ce réflexe de corriger, de voir, et ça me vient effectivement de cette imprégnation de Michonique, qui est quand même une distinction qui est fondamentale, le poème. Alors, Michel, nous allons parler de ta production poétique, ta création poétique. Nous avons, la dernière fois que nous en avons parlé, il s'agissait de L'Arbre Lumière, paru aux éditions Le Vent. Et maintenant, tu fais paraître aux éditions de L'Aigrette, Crier à l'étoile. Un très beau livre. Hein. Donc, je vais te demander peut-être de commencer. C'est une couverture, on va retrouver Denis Zimmermann la couverture. Je dirais que c'est un peintre solaire, et cette couverture criée à l'étoile dans ces jaunes profonds comme ça, c'est une véritable illumination cette couverture. Je vais te demander de bien vouloir, il y a des citations, en particulier de Yanis Ritsos, qui jalonne tout le long de ce recueil. Je vais te demander, pour que l'on ait une idée du ton de ces poèmes, de bien vouloir commencer directement, si tu le veux bien, par nous lire certains poèmes, des extraits, donc de Crier à l'étoile. On t'écoute, Michel.
Oui, ne veux-tu pas que je dise le pourquoi des citations?
Ah oui, bien sûr, avant le poème. Oui, oui. Oui, bien sûr.
C'est effectivement un recueil qui est... J'avais commencé dans le livre que tu citais, L'Arbre Lumière. Je sais pas si c'est un besoin... Nous avons dans la solitude, hein, et le poète est profondément solitaire. C'est quelque chose d'ontologie, d'existentiel. Solitude par rapport du, ce dont on parlait, du poème par rapport à la poésie, ce besoin de surgir, de jaillir, dans la poésie, mais malgré la poésie, malgré tout ce qui nous formate, nous entoure, enfin, nous dit quel chemin prendre, il y avait un besoin de dire ma solitude en face d'autres solitudes, avec d'autres solitudes, de réunir les solitudes, de me poser, de poser ma parole par rapport à des paroles qui me sont chères, qui sont des voix qui m'orientent dans la poésie, oui, dans cette institution qui s'appelle la poésie, il y a des voix, on retrouve les voix des poètes qu'on aime. Hein. Donc voilà, j'ai choisi quelques poèmes qui sont des marqueurs profonds de la manière dont mon poème se dirige. Je fais un peu des figures de proue qui guident le poème. Alors, Poitsets, dans le poète grec, dont je cite Ritsos, « Nom et odeur, j'ai faim, vous dis-je. Je faim du monde. » Yanis Ritsos. De tous les noms, elle saisit seule la terre est sans mémoire. Ni les herbes, ni les pierres n'enchaînent la bouche. Vers quoi docile nous reviendrons? Vers l'être qui veut et se lève, sur la terre nue, garder intacte la couronne de son amour. Donc c'est le poème qui est... Il n'est pas simplement dédié à Ritsos, il tire son... il dialogue avec... dont cette fin dans, du monde dont parle Ritsos et dont que j'ai aussi à la bouche, hein, dont je veux que je veux partager avec lui. Voilà pour le poème de Ritsos. Alors peut-être le deuxième qui donne un petit peu son qui justifie, si je puis dire, le titre, hein, c'est que à cette époque où se produisait le recueil, donc où il s'éditait, où il devenait livre, est arrivé un événement qui m'a beaucoup attristé, c'est la disparition de Vigée, le cas de Vigée, donc qui était aussi Christian, que tu connais Christian, puisqu'il a passé, tu l'as reçu, il passait souvent par Toulouse, que j'ai aussi bien connu. Et je relisais Vigée pour un colloque qui devait avoir lieu, n'a pas eu lieu à cause du Covid, hein, bien sûr. Et la notion d'étoile, hein, pas la notion d'étoile, mais l'étoile, hein, en tant que, oui, que fragment d'un monde que je vois et que j'entrevois, ne serait-ce que dans la Kabbale, dans la mystique, dans les textes qui me tiennent compagnie, j'ai trouvé chez Vigée ces deux vers qui ont guidé mon poème. Et de là vient le titre. De l'autre côté de la nuit, quelle étoile t'éclaire? Et ça me semblait avoir davantage de sens dans cette période où nous étions isolés, confinés, et dans ce désert intérieur qui était le nôtre à l'époque. À perte de mémoire, ce pays est naissance. Il faut avoir été sable jusqu'aux mers ultimes pour qu'en tout exil, l'étoile renaisse et porte le nom de la présence reconstruite. Mon fils est ce temple, où l'ombre est au cœur de la pierre, un bouquet de soleil qui refleurit, un roc de lumière qui soulève les cendres du pays. Alors, dans le poème, je parlais de l'étoile, et c'est aussi de ce registre qu'appartient l'étoile, la présence, dont nous parlerons, j'imagine, j'ai dit, la présence de René Char, oui, la présence chère à René Char, la présence, c'est-à-dire c'est le monde, cette portion du monde qui nous habite. Car nous ne pouvons pas habiter tout le monde est ou bien désert, ou il est trop plein, ou bien il est cruel, il est meurtrier, il est le monde. Le poète pour le monde porte le monde de manière particulière, avec sa mémoire, avec son désir, avec sa nostalgie, et ça donne. Et là, dans mon poème, c'était bien sûr mon fils, c'est-à-dire mon fils, Mathias, que j'ai perdu il y a quelques années, et qui, devenait cette étoile qui brille toujours, même invisiblement, de manière invisible, et qui me guide sur le chemin. Donc la présence, avec une notion de la présence qui est une présence, mystérieuse, puisqu'elle n'est pas de l'ordre de l'être là, mais de l'ordre de quelque chose, d'une réalité invisible.
Est-ce que le poème, d'une façon générale, n'a pas pour vocation de faire surgir toujours cette présence, y compris dans les poèmes les moins mystiques, hein?
Personnellement, je le crois. Je crois de plus en plus. Le poème est là pour aussi est important. Il peut être beaucoup de choses, le poème. Il peut être autant de choses, autant de voix, autant de gestes et de postures, si je puis dire, que souhaite le poète. Hein. Il est modulé par le désir du poète. Et je crois que c'est là qu'est, entre autres, le poème. Le poème peut être aussi dans une présence beaucoup plus réelle, de l'histoire qui se fait maintenant, quand les poètes de la Résistance, par exemple, en France, écrivent des poèmes, c'est en fait d'un monde bien réel et bien menaçant, et c'est presque mot pour mot qu'ils essayent de débusquer ce qui peut les faire survivre ici et maintenant.
On t'écoute donc dans la poursuite de Crier à l'étoile.
Oui, il y a notre texte. Je regarde un instant. Oui, Rilke. Alors, citation de Rilke. Les amants n'étaient l'autre qui cache. Ce qui leur advient, c'est du monde. Vous voyez que le monde revient dans ce poème. Le monde. En tant que réalité assez qui est là tout simplement, mais qui est là dans sa gravité, et le principe de la gravité nous pousse vers ce monde, le principe de la réalité nous pousse vers ce monde, et en même temps, bien sûr que c'est pas le monde que forcément nous voulons. Ce monde-là, nous voulons tous plus ou moins le changer. L'amour est ce qui change continuellement le monde. Ce que les surréalistes ont très bien vu, ce que les poètes mystiques voient très bien avec cette advenue de l'amour mystique, de cet idéal d'amour, l'amour est ce qui peut changer le monde. Alors voilà le poème. Pour parler du monde, la terre a des mots plus larges que les équinoxes et les cristaux du souffle. Combien de vents déboussolent la mer que nous cherchions d'autre part le sommet de l'arbre. Voudrait-il être ici en silence, ce qu'on appelle un destin, sans l'évanescence d'une brise ou le rose firmament, si rien d'autre est toujours n'est en face de toi un visage comme un dévoilement de la terre sous les eaux rassemblées de ta lumière. Bon, le mot de lumière revient. Alors, on est à l'écoute de ce qu'on... Oui, pas une écoute forcément que narcissique de son poème, mais les autres, les lecteurs nous renvoient enfin beaucoup de choses qui attirent notre attention sur le poème qu'on a écrit. Alors, dans ces poèmes, on sent une répétition. Moi, je la justifie en quelque sorte par la nécessité d'un récitatif qui est important pour moi, de ce que Michelnik appellerait du rythme, un retour, enfin, qui peut être un retour linguistique, c'est-à-dire des syllabes, de phonèmes, mais aussi de concepts. Je parlais du monde, comme je parle de la présence et de la lumière. La lumière est, pour moi qui suis, comme beaucoup d'entre nous, de culture, de cette culture occidentale tant décriée aujourd'hui, la Bible juive, la Bible hébraïque, la Bible chrétienne, parlent beaucoup de la lumière. Je ne pense qu'à notre corpus, disons, de textes cosmogoniques, oui. Il y en a bien sûr les autres aussi, ils parlent de la lumière, comment la lumière fait naître le vivant. Non, la lumière est importante comme expression même de la vie de la création. Alors, un autre poème, qui est un poète que j'ai... que j'ai pas toujours connu, vers lequel je suis allé, qui est Robert Juarez. Bon, j'ai du mal à le prononcer. Poète argentin. Qui m'interpelle beaucoup. Et qui écrit les vers suivants. Tout vient vers nous. Nous n'allons vers rien. Nous n'allons pas vers rien. Pardon. J'écris, vers où aller? Dans la laine de l'ange, où s'achèvent les langues, les mots muets en capture du monde, et les purs exhalés des mondes séparés, dans le monde reconstruit, les semences et les rencontres, par la nuque de la vie, je te ploierai comme un arbre, et les collines, enflammées comme l'âme de Judée, posent ses graines noires et ses fleurs roses, les noms portent sur les choses, la lumière de l'espérance, je te dirai l'amour où je vais. Donc, où on retrouve, on doit dans ce texte, dont je viens de parler, ces mots un peu presque obsessionnels qui sont les miens, amour, lumière, présence, donc qui forment l'appareil même de la vie, enfin l'appareil, je dirais, génétique de la vie et de la poésie. Quel poète ne cherche pas, ne lit pas l'amour où il va? Voilà, par exemple. L'amour où il va. Que cet amour-là, on lui donne tous les divers sens, oui. Bon, je dirais, je reprendrai les mots, la dichotomie simple, oui, sacrée, profane. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres expressions de l'amour en d'autres mots. Oui. Alors, Christian, si tu veux que je continue, d'autres...
Oui, je crois qu'après il y a la citation de Rilke qui est importante aussi. Hein.
Oui. J'ai une intention particulière pour la pour alors j'emploie du coup le mot poésie, la poésie lyrique, c'est-à-dire cet ensemble de poèmes, son système, disons, la manière dont il construit le monde et la conscience, il reconstruit la conscience poétique, la personnalité du poète par la vision du monde. Je suis sensible à ce que Rilke appelle l'ouvert, hein, et c'est traduit en français par l'ouvert, c'est-à-dire cette manière, justement, on revient à Méchonic, où le poème cherche son chemin et porte sur ce chemin où il va la conscience du poète. Hein. Là où tout à l'heure Vanessa allait chercher son chemin, tout poète hein, cherche son chemin et peu importe qu'il soit lequel il est. Le Talmud dit, ce grand texte de commentaires sur la Bible, hein, dit pour trouver son chemin, il faut se tromper. Oui, il faut se tromper le chemin pour trouver le chemin. Alors, c'est un petit peu ça, quelque part, de manière presque par dérision, oui, ou du moins ironiquement, que l'on trouve son chemin. Son chemin, on a lu tous les livres de poésie, oui, on a l'immense panthéon de la poésie. Reste ce qui est de l'ordre de la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de la poésie à soi, l'apparition, comment tout ça peut se nier, se transformer, et devait être pris en main par le sujet poétique. On pourrait le dire de la même manière de l'histoire, oui. Comment l'histoire, on vit l'histoire collectivement, chacun de nous. L'histoire qui, l'actualité qui nous entoure, hein, la contemporanéité qui nous entoure. Hein. Et c'est vrai que c'est peut-être rare, hein, mais enfin on peut supposer que c'est moins rare que ça. Nous prenons, chacun de nous, notre graine de l'histoire, nous la semons à notre manière et à la manière, on l'espère, pour le bénéfice de l'humanité. Alors, l'ouvert, c'est ce chemin qui va vers l'avant. Et où, alors ça peut être invisible, ce qui n'est pas encore su, ce qui n'est pas encore territorialisé, qui réside quelque part, et où on peut imaginer, on peut rêver, et on peut créer tout simplement. Donc j'aime beaucoup ce concept de, oui, qui est celui de la modernité poétique, hein, posé par Rilke. Si on parlait de bonne foi, on parlait d'autres, pas que de Rilke ou des poètes romantiques allemands, mais de la poésie moderne française, on trouve aussi cette notion d'ouverture. Un autre poète, peut-être, alors je me permets de le citer et de lire le texte que j'ai écrit, c'est bien sûr Félan que je... qui est présent en moi tout le temps, un poète, je ne sais pas s'il y a des poètes majeurs par rapport à des poètes qui seraient mineurs. Bon, il y a des poètes qui se saisissent, qui se saisissent du monde à certains moments de l'histoire, de manière très singulière et différente des autres. Hein. Et tout cela, alors je réquisitionne mes chroniques contre la langue, contre la pensée, contre tout. Et je suis aussi, tu l'as signalé, je profession, traducteur, quand, c'est pas un métier, c'est une manière de, aussi de, d'écrire, hein, de rentrer dans l'écriture du poème, de l'autre, hein, mais avec du moi, avec mon souffle à moi, parce que le poème traduit, il faut le creuser, il faut bien le creuser. Donc, je parlais de Célan. Célan écrit, il écrit contre la langue, tout le monde l'a dit, hein, je pense que je ne ferai pas une exception. Il écrit contre sa langue qui est l'allemand, qui est
la langue du bourreau.
Déconstruit d'une certaine manière.
Oui, et qui est la langue du bourreau pour lui aussi.
Oui, oui, qui est la langue de, qui ne doit pas écrire, qui ne devrait pas, qui lui fait mal. Il écrit dans l'absence, justement, je préfère ça, il écrit dans une absence. Entre l'allemand, entre le roumain, il a écrit aussi des poèmes en roumain, mais le roumain qui a été sa langue. L'hébreu est aussi quelque part sa langue d'enfance, puisque dans sa famille, il y avait des gens traditionnels, il entendait l'hébreu. Tout ça, quelque part, est traversé. Tout cela est passé. Tout cela est quelque part absenté, si je puis forger ce néologisme. Ils sont mis en quelque part dans un coin d'absence pour et c'est ça le tour de force, pour, dans une espèce de traduction. On a parlé de l'approche traductionnelle de Célan. Célan était traducteur. On oublie qu'il a traduit Simenon, hein.
Oui.
Voilà, traduisait. Il y a un geste, une approche de traducteur. Il creuse ces langues-là pour en tirer quelque chose, pour tirer de toutes ces absences, ces langues qui n'existent pas, qui ne ressemblent pas telles quelles, pour en retirer quelque chose qui va devenir son poème. Bon. Ce qui a fait, qui a occulté un petit peu l'histoire du poétique de Célan, bon, c'est effectivement c'est la Shoah, c'est-à-dire l'extermination, tout ça, donc sur lequel on insiste. Mais il y a d'autres absences, bon, l'un et l'autre sont liés, bien sûr, les langues du bourreau, etc. Mais il y a quelque chose de plus fort, poétiquement parlant, qui est de l'aide du fer, hein, de Célan, du rythme de Célan. Il fait grain de l'absence. Il fait présence de l'absence. Il casse quelque chose de la structure des langues, quelque chose de la structure également du vocabulaire pour se forger un langage, se forger un rythme, son rythme à lui.
Michel,
qui est tout à fait singulier.
Je vais te demander, nous sommes rattrapés par l'heure, donc
oui.
Je vais te demander pour finir de lire ce poème qui est à la page 53, car nous devons nous plier aux exigences des horaires de la radio.
Bien sûr. Voilà, 53, c'est la dernière page, je pense.
La moitié de mort nourrie au sein de notre vie.
Oui, alors, aussi, à partir de la citation de Célan, la moitié de mort nourrit au sein de notre vie. Et ça résume un petit peu ce que je viens de dire, hein. C'est le résume mieux en termes d'existence, hein, de vie, ce que je viens de dire. La présence, il y a une moitié de présence et il y a une moitié d'absence. Une moitié de vie contre une moitié de mort. Ainsi l'ombre de la vie est la lumière de notre mort. Le sang des mots nourrit le cœur de la vie. Ainsi le monde créé d'une parole vivait, quand nous l'élargissions et le creusions de notre amour. Vagabonde blessure, l'étoile ressurgit au-dessus du temps, la bouche a encore un goût d'amour.
Merci beaucoup, Michel Eckart-Elial. Nous rappelons donc les titres de tes publications, Michel Eckart-Elial, L'Arbre-Lumière, aux éditions Le Vent, et Michel Eckart-Elial, Crier à l'étoile, aux éditions De l'Aigrette. Nous aurons le plaisir, et j'appelle les Toulousains à venir jeudi à l'hôtel d'Assesa. Nous aurons le plaisir de t'y retrouver. Merci beaucoup, Michel, et
merci
à bientôt.
Merci beaucoup, Christian. Merci, Radio Occitanie.
Et à jeudi.
Merci. Merci, Toulouse.
Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus.